À toutes et tous, à ceux qui sont présents ici, à ceux assez nombreux ce matin qui nous suivent à distance. Je fais un coucou. Bonjour aussi à nos tout petits participants. Il y a Silas qui est là. Il y a les Guiberto qui sont en ligne. Alors peut-être que Ruben est là aussi. Il y a Jocelyne Boubounet peut-être qui nous écoute. Donc que l'on soit âgé dans le troisième, le quatrième âge, que l'on ait quelques mois de vie, Dieu nous accueille et on peut se réunir ensemble. C'est une joie et un privilège. Ce matin, j'aimerais commencer par vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous voulez apprendre à faire quelque chose? Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez apprendre à faire quelque chose que vous ne savez pas faire ou vous perfectionner dans une chose? Par exemple, savoir dessiner des mangas. Savoir gérer une ruche quand on veut avoir du miel maison, savoir planter des tomates. Alors de mon côté, mon premier réflexe, c'est d'aller me tourner vers ce qu'on va afficher ici, vers des livres. Alors c'est peut-être une déformation professionnelle, parce que je suis bibliothécaire, comme Rebecca, je ne sais pas si toi aussi, c'est ton premier réflexe d'aller chercher des livres dans... Voilà, t'as pensé, voilà, c'est bien, on est sur la même longueur d'onde. Voilà, prendre un livre, un manuel qui a nous parlé de jardinage, qui a parlé d'apiculture ou de dessin, puis le lire, essayer d'en sortir des informations. Il y a un nouveau moyen encore qui est apparu lorsqu'on veut apprendre à faire des choses ou qu'on veut se perfectionner dans certaines choses. C'est ce qu'on appelle les tutoriels. Des tutoriels, notamment sur YouTube, donc c'est des vidéos dans lesquelles on va pouvoir, il y a quelqu'un qui va nous parler, qui va en même temps montrer ce qu'il est en train de faire. Donc pour le dessin par exemple, il y a un YouTuber très connu qui s'appelle Tutodro, que Timothée aime beaucoup. Et donc on va pouvoir, si on veut dessiner Mickey, si on veut savoir dessiner Mario, on va avoir des vidéos qui vont permettre de l'expliquer. Pareil pour gérer une ruche, pareil pour planter des tomates. Et c'est une évolution que je trouve très intéressante. Alors le premier réflexe quand on est adulte, ça pourrait être de se dire oui mais ça c'est pour la génération solution de facilité. Les vidéos, voilà, c'est la solution la plus simple. Il n'y a plus besoin d'ouvrir un livre, il n'y a plus besoin de lire. Voilà, c'est la solution partisan du moindre effort. Je regarde une vidéo, comme ça je m'épargne du temps et de l'énergie. Mais en fait, quand on y réfléchit, cette méthode du tuto vidéo, du tutoriel vidéo, est sans doute la plus efficace pour apprendre. Pourquoi ? Parce que on voit vraiment la personne agir en vidéo et parler en même temps. Et d'une certaine manière, c'est comme si on est à côté de la personne. Il n'y a pas d'interaction avec la vidéo, mais on est embarqué, on est participant en fait dans ce que la personne fait dans cette vidéo. Et dans le texte de la Bible que l'on va lire ce matin ensemble, des disciples de Jésus veulent se perfectionner dans une chose. Et ils le disent à Jésus. Voilà ce qu'ils demandent à Jésus. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Alors Jésus ne va pas répondre par un livre, mais il va répondre par quelque chose qui peut ressembler à ce qu'on trouve sur les tutoriels YouTube. Il va donner un exemple, donner quelques explications et des encouragements à ses disciples. C'est un texte que l'on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 11. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à allumer vos Bibles sur vos téléphones. Luc chapitre 11, les 13 premiers versets. On ne peut pas l'afficher toujours ? Ok. Moi, je vais le lire et puis si vous avez vos Bibles, je vais le lire dans la version du semeur. Luc chapitre 11. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda : Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Il leur répondit, quand vous priez, dites, Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. et garde-nous de céder à la tentation. » Puis il ajouta, « Supposez que l'un de vous est un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi, je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que l'autre, de l'intérieur de la maison, lui réponde, « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. » Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur, et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, moi je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou un serpent quand il demande un poisson? Ou encore s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Amen. Apprends-nous à prier. Quelle belle demande de la part des disciples. C'est dans l'ensemble des 4 évangiles, l'un des seuls moments où on voit les disciples demander à Jésus de les enseigner sur un thème particulier. Ils veulent se perfectionner. En tant que juifs, ils savent prier depuis leur enfance, mais ils ont envie que Jésus leur enseigne la prière. Ils ne lui demandent pas « Apprends-nous à faire des miracles ». Ils ne lui demandent pas « Apprends-nous à bien nous comporter ». Ils ne lui demandent pas « Apprends-nous à avoir du succès dans notre ministère ». Mais « Apprends-nous à prier ». La réponse de Jésus, elle est très riche. Il y a des versets qui nous touchent, qu'on connaît, chercher, qui cherchent, trouvent, qui sont même devenus proverbiaux en français. Jésus répond avec un modèle de prière, le Notre Père. Il répond avec une histoire de 2 amis, un ami qui va réveiller son autre ami, ce qu'on appelle une parabole, et ensuite avec quelques explications. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde dans ce passage 3 choses. Dans ce que Jésus répond. Tout d'abord, la première chose, c'est le contexte de la prière. Qu'est-ce qui se passe quand on prie? Et je pense que ce texte nous montre que la prière, c'est le cadre de la prière, c'est une relation personnelle avec Dieu. Deuxième chose, le contenu de la prière. Et je pense que ce texte nous dit que la prière, c'est l'expression simple de notre adoration et de notre dépendance à Dieu. Et enfin, la troisième chose, quelle est la réponse de Dieu à la prière? Une réponse que je trouve un peu étonnante, quand c'est une conclusion qui peut nous surprendre, puisque la réponse de Dieu à la prière, c'est de donner le Saint-Esprit. Jésus répond donc avec une prière, un modèle de prière, avec une parabole, avec quelques explications, mais il y a quelque chose que l'on va retrouver dans l'ensemble de ces éléments de la réponse de Jésus, de ce tutoriel de Jésus. Et ces éléments-là nous aident à comprendre le contexte de la prière. Quels sont les mots que Jésus utilise? Le premier, c'est « Père ». On s'adresse à Dieu comme on s'adresse à un Père. Dans la parabole, on voit voir un ami qui va voir réveiller son ami. Puis ensuite, on a l'image des enfants qui demandent à manger à leurs parents et des parents qui leur donnent de la nourriture, de la bonne nourriture. Et dans le dernier verset, on retrouve l'idée que le Père Céleste donne l'Esprit. Tout au long de la réponse, avec ses relations d'amitié, ses relations de Père et avec ses enfants, Jésus souligne que la prière, le cadre de la prière, c'est une atmosphère d'intimité. Quand je prie, je m'adresse à quelqu'un qui me connaît. à quelqu'un qui est proche de moi, comme un père est proche de moi, comme un ami est proche de moi. L'image du père peut, en fonction de notre histoire personnelle, être un peu brouillée. Peut-être que certains ont pu avoir des pères violents, abusifs. Quand la Bible nous dit que Dieu est notre père, c'est qu'il est un père parfait. Oui, Dieu veut mon bien, Dieu m'aime, et je peux aller le déranger, entre guillemets, à n'importe quel moment. Et justement, je ne le dérange pas. Il ne me répondra pas comme cet ami qui est au fond du lit et qui est un peu embêté là, par la demande insistante d'aller ouvrir l'armoire avec les pains, etc. Je peux m'adresser à Dieu à n'importe quel moment. Les paroles que je prononce à Dieu sont celles que je peux échanger avec un ami. Lorsque je passe du temps avec, lorsqu'un enfant passe du temps avec son père. On va afficher une image qui peut vous sembler un peu énigmatique. C'est un disque qui a été gravé en 1979 et qui a été envoyé dans l'espace la même année par la NASA sur des sondes spatiales, les sondes Voyager. Et ces sondes, elles sont toujours aujourd'hui actives, elles sont en dehors du système solaire, elles sont parties explorer l'univers. Et normalement, elles devraient. Les ingénieurs qui les ont conçues pour qu'elles durent même plus longtemps que la vie de la Terre. Voilà. C'est ce qu'on lit en tout cas. Et sur ce disque, il y a des sons qui ont été enregistrés, des chants, de la musique, des voix humaines. Il y a des photos aussi qui ont été gravées, des photos sur tout ce qu'on peut voir sur la Terre. L'idée, c'est que peut-être un jour, ce disque permettra de communiquer avec des intelligences extraterrestres qui pourraient exister dans l'univers. C'est un peu comme une bouteille à la mer jetée par l'espèce humaine dans l'immensité de l'espace. Et peut-être que certaines personnes qui sont extérieures à la foi chrétienne, lorsqu'elles nous voient prier, elles peuvent s'imaginer qu'on est un petit peu comme, on envoie un petit peu comme ces disques-là, on parle dans le vide, on lance une prière en espérant que peut-être, il y a dans l'univers un Dieu qui va entendre ce que je dis dans mon cœur ou va entendre ce que je dis avec ma bouche. Est-ce que la prière est une bouteille comme ça qu'on jette en l'air et en espérant vaguement que quelqu'un va l'entendre? Jésus nous dit ici que c'est certainement pas le cas. C'est tout sauf une bouteille jetée à la mer. La prière, c'est une conversation avec un ami, avec un père, qu'on interrompt quand on finit de prier, puis qu'on reprend. Quelqu'un qui nous accueille et qui se réjouit de nous écouter. Et la prière, elle est vraiment personnelle. Parce qu'elle est relationnelle et personnelle. Elle est personnelle parce que je parle à Dieu, et Dieu est une personne. Le Dieu que la Bible nous présente n'est pas une force. Notamment ceux qui aiment beaucoup la saga Star Wars, vous savez que tout au long des 9 films, il y a cette idée d'avoir la force avec un F majuscule, c'est une sorte de puissance qui est présente dans cet univers et qu'on peut espérer maîtriser. Dieu n'est pas une force vague, Dieu n'est pas une puissance, Dieu n'est pas un dogme non plus, des vérités qu'il faudrait connaître pour être sauvé. Non, Dieu est une personne qui veut être en relation avec nous et qui s'est parfaitement révélée en Jésus. Et la prière me met en relation avec cette personne. Elle me met en relation avec cette personne qui est Dieu. Elle nous met aussi en relation les uns avec les autres. Et c'est vrai que c'est pas du tout dans les habitudes des églises évangéliques de prier tous ensemble, à l'unisson, la prière du Notre Père. Ça se fait si vous êtes déjà allé assister à des cultes catholiques, dans les messes catholiques, ça fait partie de la liturgie, la prière du Notre Père, tous ensemble. Et c'est quelque chose qui est, je trouve, intéressant, parce que on voit que la prière, c'est non seulement une relation qu'on peut avoir avec Dieu, mais c'est aussi quelque chose qui nous met en relation les uns avec les autres. Dans la prière, on peut aussi prier les uns pour les autres. La prière est relationnelle. Première chose que ce texte nous dit, La prière nous invite à parler à Dieu avec confiance, mais pour lui dire quoi? Quel est le contenu de la prière? La première chose qui me frappe quand je lis ce texte, c'est que la prière que Jésus donne comme modèle à ses disciples, elle est très, très courte. Même en la disant de manière méditative, c'est peut-être 20 secondes, 30 secondes. Et cette prière, qu'on appelle le Notre Père, elle se trouve également dans l'évangile de Matthieu. Alors vous avez sans doute remarqué qu'ici, Luc a un peu raccourci. Il y a un peu moins d'éléments que dans Matthieu. Il y a une demande en moins, la demande que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Mais même dans les demandes qu'on va trouver chez Luc et Matthieu, Luc va utiliser moins de mots pour dire la même chose. Et du coup, ça donne l'impression d'avoir une prière encore plus dense, qui va droit à l'essentiel. La prière que Dieu nous enseigne, que Jésus, pardon, nous enseigne, c'est une prière directe, une prière franche, qui est respectueuse de Dieu, qui s'adresse à Dieu comme un père, qui reconnaît le caractère unique et divin de Dieu. Mais il n'y a pas besoin d'une très longue introduction pour apaiser Dieu, pour le rendre favorable, pour le mettre dans notre poche. La prière chrétienne s'adresse directement à Dieu de manière simple. L'illustration suivante que je voulais vous montrer, qui est une très belle photo, très colorée, ce sont des femmes balinaises. Donc Bali, c'est une petite île près de l'Indonésie, près de l'île de Java, en Indonésie, près de l'île de Java. Et la foi majoritaire à Bali, c'est l'hindouisme. Et dans toute l'île, on va trouver des milliers de temples. Et la population a une très grande ferveur religieuse. C'est des temples qui sont fréquentés quotidiennement par des dizaines de milliers de personnes. Et dans l'hindouisme, la prière que l'on va adresser aux divinités, qui sont très nombreuses, elle implique toujours qu'il y ait tout un rituel, qu'il y ait un rituel très codifié avec des offrandes. Et donc, ce que ces femmes portent sur la tête, ce sont en fait des offrandes qui ont été préparées minutieusement à la maison et qui ensuite sont apportées au temple pour les divinités. Et on offre ces offrandes et on récite des prières qu'on appelle les mantras. Et voilà, donc s'approcher de ces divinités, pour les hindous, se fait avec beaucoup de précautions et avec tout un rituel. Dans la prière que Jésus donne en modèle à ses disciples, Dieu n'attend pas qu'on soit dans un rituel, dans un cérémonial complexe. On est dans une expression simple. Et je pense que c'est le premier point. Notre prière peut être simple. Il n'y a pas besoin de maîtriser les mots compliqués de la théologie. Il n'y a pas besoin de formules qu'il faut dire forcément lorsqu'on prie. On peut s'adresser à Dieu de manière franche, directe, respectueuse, mais franche et directe, simple. Pour lui demander quoi? Pour lui exprimer notre adoration et notre dépendance. Et on trouve ces deux aspects dans la prière que Jésus nous donne en exemple. L'adoration et notre dépendance. Les deux premières requêtes, elles concernent Dieu lui-même. Que ton nom soit sanctifié, ça c'est la version que l'on dit généralement quand on prie le Notre Père, et qui est rendue dans la version du Semeur par que Dieu soit reconnu pour Dieu, que la personne de Dieu soit reconnue, que la divinité de Dieu soit reconnue, et que son règne vienne, c'est-à-dire que son autorité soit exercée pleinement sur toute la création. D'abord, tourner les regards vers Dieu, lever les yeux vers Dieu, reconnaître sa personne, lui rendre gloire. Et puis ensuite, les trois demandes suivantes, elles concernent les disciples. La nourriture matérielle, le pardon, la protection spirituelle. Donne-nous notre pain quotidien, donne-nous notre pain de ce jour. Il y a eu beaucoup de discussions dans l'histoire de l'Église sur le sens de cette expression. Pour certains théologiens, ce n'était pas possible que Dieu, à travers cette prière, que Jésus enseigne que l'on prie pour des besoins bassement matériels, ce qu'on va manger. Il y avait forcément un sens spirituel caché dans cette expression de pain quotidien. Et c'était renforcé par le fait que dans l'original grec, le mot quotidien On n'avait aucun autre exemple de tous les manuscrits grecs qui sont arrivés jusqu'à de l'Antiquité grecque. Ce mot-là ne se trouvait nulle part. Et donc on se disait, c'est un mot divin, c'est un mot qui montre bien que là, Jésus ne parle pas du pain, c'est pas possible qu'il nous parle de la baguette qu'on va acheter chez le boulanger. Il parle forcément de quelque chose d'autre. Et en fait, on a trouvé un papyrus à la fin du XIXe siècle, près du Caire, où on parlait grec à l'époque de Jésus, et où on trouve en fait une liste de commissions, en quelque sorte, et où on a cette expression exactement « acheter du pain quotidien ». C'est-à-dire en fait l'expression qui veut dire « le pain qui a été cuit aujourd'hui ». Sous-entendu, il ne faut pas que le boulanger nous refile du pain d'il y a 2 ou 3 jours. Aujourd'hui, on dirait pas du pain décongelé. Et donc, c'est bien ça. Jésus, il utilise un mot très concret de la vie de tous les jours, de dire « donne-nous le pain qui a été cuit aujourd'hui, notre pain de ce jour ». Alors, on le verra à la fin de la prédication, qu'on peut aussi voir une portée spirituelle dans l'image du pain, mais c'est secondaire. La première chose dont oui, il est légitime. Aujourd'hui, ça nous paraît naturel de voir dans cette demande du pain quotidien quelque chose qui concerne notre corps, notre besoin en tant qu'être humain. Mais pendant très longtemps, ça a posé beaucoup de difficultés, beaucoup de questions. Prier notre dépendance, reconnaître notre pauvreté. Parce que si on demande le pain, si on demande le pardon, si on demande la protection spirituelle, c'est qu'on s'estime pauvre devant Dieu, dépendant de lui et de sa grâce pour avancer. Se reconnaître pauvre, reconnaître sa dépendance, c'est aussi savoir demander ce qui compte vraiment, ce qui est important, pas ce qui est superflu. Quelque chose qui se renouvelle chaque jour et pas dans l'optique, dans le but de faire une accumulation des bénédictions. Quand on est pauvre, quand on est dépendant de Dieu, on prie pour ceux dont on a besoin, comme c'est le cas dans la prière que Jésus nous donne en modèle. Et je pense que c'est ça l'un des sens premier de la parole de Jésus, la toute première béatitude dans l'évangile de Matthieu. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Quand on se reconnaît spirituellement pauvre, alors on se tourne vers Dieu en lui demandant l'essentiel dont on a besoin pour nos vies. La prière, un cadre relationnel, une relation personnelle. La prière, une expression simple de notre adoration et de notre dépendance. Et pour terminer, la prière, quelle réponse de la part de Dieu ? Quelle réponse de la part de Dieu ? On va relire le tout dernier verset, le verset 13. « Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Alors, pour moi, c'est vraiment, je trouve, une phrase étonnante. Aucune des 5 demandes de la prière ne concerne le Saint-Esprit. On parle du nom de Dieu, de son règne, du pain, du pardon, de la protection face à la tentation. On ne parle pas du Saint-Esprit. La parabole avec les 2 amis ne parle pas du Saint-Esprit non plus. Elle est là pour nous montrer que si même entre amis, quand on se fait embêter, on va donner du pain, on peut, à combien plus forte raison Jésus, lui, Dieu, quand on le prie, va nous donner avec générosité, avec grâce. Et l'image des pères qui donnent de bonnes choses à leurs enfants à manger, ça ne parle pas non plus du Saint-Esprit. C'est pour nous dire que Dieu, quand il répond à nos prières, nous donne des bonnes choses, des choses excellentes. Que vient faire le Saint-Esprit, en fait, à la fin de ce passage ? Je pense qu'il y a un des indices, et on revient au pain dont j'ai parlé, qu'on va retrouver dans l'ensemble de notre passage. La demande du pain quotidien, elle est au milieu des 5 demandes. Elle est le centre des 5 demandes du Notre Père, dans l'évangile de Luc. Dans la parabole qu'on a lue, qu'est-ce que l'ami vient demander à son ami qui est déjà au lit ? Du pain. Et que donne le père à son enfant qui lui demande à manger ? Du pain. Si vous me permettez ce petit jeu de mots, Je dirais que Jésus, ici, dans ce passage, nous parle aussi bien de l'Esprit Saint que de l'Esprit Pain. On l'a dit déjà hein, au début de ce culte, nous sommes le dimanche de Pentecôte, nous célébrons aujourd'hui le don du Saint-Esprit à la première communauté chrétienne qui était réunie à Jérusalem. Et dans le passage d'Acte 2, on a lu le tout début, on va, pour parler du Saint-Esprit, utiliser l'image du feu, les langues de feu, et Pierre parle également de l'Esprit comme de l'eau, de l'Esprit comme du vent. C'est plusieurs images qui nous aident à comprendre la manière dont le Saint-Esprit agit. Le feu, l'eau, le vent. Et l'image du pain, qu'on va trouver tout au long de notre passage, elle nous aide, je pense, à mieux comprendre notre attitude vis-à-vis du Saint-Esprit. Quelle devrait être notre attitude? Le pain, on va afficher une belle photo de pain. Béni soient les boulangers, hein. C'est vraiment un beau métier. Et j'ai appris que Teddy et Hébert commençaient justement à se former pour être boulangers. Le pain, c'est un aliment essentiel, quotidien. Mon papa, par exemple, qui a un peu plus de 80 ans maintenant, mange du pain à chaque repas. Moi, ce n'est pas le cas. Mais je sais, quand on invite mes parents à la maison, on sait forcément qu'il faut qu'on prévoie du pain. Parce qu'il y a toujours... une tranche ou deux à chaque repas, midi et soir, du pain. Et peut-être que l'alimentation a un petit peu évolué hein, en Occident, mais pendant des siècles, le pain a vraiment été un aliment essentiel, un aliment de base. Et le Saint-Esprit, c'est pareil. C'est essentiel pour notre marche chrétienne, pour notre vie chrétienne. On l'a prié déjà. Je pense qu'on a besoin chaque jour de reprendre conscience que le Saint-Esprit est là, en nous, que Dieu est venu habiter en nous par son Saint-Esprit. Nous avons quotidiennement besoin de manger. Nous avons quotidiennement besoin d'être renouvelés par l'Esprit-Saint. Donc ce n'est pas un hasard si Jésus termine en disant que Dieu va envoyer le Saint-Esprit à ses enfants en réponse à ses prières. Le Saint-Esprit, il va renforcer aussi l'aspect relationnel de la prière. L'apôtre Paul va dire que l'Esprit Saint que l'on a reçu, c'est un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption qui va renforcer ce sentiment que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu est notre Père. L'apôtre Paul dit également que le Saint-Esprit est là pour nous aider dans nos prières. Il dit même que lorsque l'on ne sait pas quoi prier, que lorsqu'on ne sait plus quoi prier dans certaines situations, qu'est-ce qu'il dit ? Que le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Le Saint-Esprit renforce cet esprit d'adoption, la relation que l'on a avec notre Père. Le Saint-Esprit nous guide dans nos prières. Apprends-nous à prier. Oui, Dieu, lorsque l'on prie, donne de bonnes choses. Et la première de ces bonnes choses qu'il donne, c'est l'Esprit Saint. La Pentecôte que l'on fête aujourd'hui, le don de l'Esprit aux croyants, c'est le règne de Dieu qui vient dans nos vies. Que ton règne vienne, c'est une belle demande dans la prière du Notre Père. Je pense que l'envoi de l'Esprit à la Pentecôte, l'envoi de l'Esprit lorsque l'on se tourne vers Dieu, lorsque l'on se convertit, c'est une manière aussi pour le règne de Dieu de venir dans nos vies et de venir dans ce monde à travers nous. Et ce matin, nous sommes le fruit de cet événement qui s'est déroulé à Jérusalem il y a 2000 ans. C'est parce que Paul est parti en Occident et ensuite il y a des personnes qui se sont converties et on peut tracer entre que l'on vienne d'Asie, d'Afrique, d'Occident, d'Amérique, on peut tracer une ligne qui nous relie à cet événement-là par des milliers de témoignages successifs qui nous ont touchés et par la façon dont l'Esprit de Dieu nous a touchés directement également. Alors que ce tutoriel de Jésus sur la prière nous encourage à venir à lui avec confiance, à frapper à la porte du ciel, sans avoir peur de le déranger. On ne dérange jamais Dieu. Dieu n'est pas comme ce voisin un peu endormi qui n'a pas envie de se laisser de se réveiller. On ne dérange jamais Dieu. Pas besoin d'être timide quand on prie. On peut prier avec confiance et même avec audace. Que ce tutoriel de Jésus sur la prière nous vienne aussi enrichir notre vie de prière et nous aider à réaliser chaque jour le privilège du don de l'Esprit. Je vous propose de finir par un court temps de prière libre où on peut peut-être, comme on l'a déjà fait, mais revenir devant Dieu par la prière, par des prières courtes. Et je terminerai par une belle prière qui a été formulée cette semaine par un pasteur américain, David Taylor, que j'ai trouvé sur son compte Twitter, qui est une belle manière, je trouve, d'entamer une nouvelle journée. Alors, il est déjà 11h20, mais je terminerai par cette prière qu'on affichera également. Sentez-vous libre de prier, de vous tourner vers Dieu, de faire part de votre adoration, de faire part de votre dépendance, comme il nous l'a enseigné dans ce passage. Seigneur, toi qui nous apprends à prier pour notre pain quotidien, et alors que nous entrons dans cette nouvelle journée, bénis notre esprit pour discerner ce qui compte le plus en ce jour. Bénis notre cœur pour rester dans la paix face à la crainte. Bénis nos mains pour accomplir le travail auquel tu nous as appelés. Bénis nos oreilles pour être accordées à ta voix. Bénis nos yeux pour voir les signes de ta présence. Et bénis nos pieds pour aller là où tu nous guides. Que nous soyons comme les oiseaux des cieux et les fleurs des champs, libres des soucis et en sécurité dans l'amour enveloppant de notre Père céleste. Nous prions dans ton bon nom. Amen.